franceinter.fr. La revue de presse de Pascal Dervieux. Dites-moi Pascal, et s'il n'y allait pas?
La question, tout le monde s'en souvient, vous savez, c'est cette interrogation qui a été lâchée par plusieurs hebdomadaires il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, pour ceux qui l'ont fait le plus tôt, et puis Politis le dernier, il y a encore 10 jours. Alors Politis s'interrogeait tout haut sur l'hypothèse d'un retrait de François Hollande de la compétition présidentielle. C'était avant la publication du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Depuis, l'interrogation court, les pages des journaux, des magazines, fait la une des débats radio et télévisés, on vient encore d'en parler avec votre invité, et le Figaro ce matin énonce l'interrogation d'une autre manière. 2017, les socialistes vont-ils lâcher Hollande ? Anne Rovan parle de la panique qui aurait saisi la Hollandie. Elle évoque cet appel mystérieux qui a circulé en fin de semaine à l'Assemblée au Sénat, invitant l'hôte de l'Élysée à ne pas se représenter. Apparemment, l'initiative a fait plouf, mais ma consoeur sous-entend clairement que ce n'est que partie remise, tant les voix se multiplient à gauche pour presser, amicalement ou pas, le président d'en rester là. Dans ce même Figaro, Guillaume Tabar observe l'hypothèse Valls, hypothèse qui prend chaque jour un peu plus de poids, comme l'énonce un ami du Premier ministre en ces termes, il arrive un moment où la loyauté ne doit pas servir de prétexte au manque de courage. Pauline Thévenot, dans Le Parisien, passe elle aussi en revue ses députés PS qui cherchent un plan B. On ne tourne pas encore ostensiblement le dos à François Hollande, on n'exprime pas encore trop ouvertement ses doutes, on continue de clamer sa loyauté. Mais n'empêche, ce sont des SMS, des petits coups de fil. Un mot glissé à l'occasion dans les couloirs de l'Assemblée, chacun se renseigne sur les candidats potentiels, donne quelques coups de sonde au cas où. Preuve pour ma consoeur du Parisien que le trouble est bien majeur. Alors question, à qui va profiter ce trouble? Pauline Thévenot rapporte qu'une rencontre organisée mercredi par Arnaud Montebourg a attiré beaucoup plus de monde que prévu. Et elle rapporte aussi les propos d'un proche du Premier ministre selon lequel Manuel Valls aurait des appels de partout. Toute cette agitation amène d'ailleurs un proche de François Hollande, cette fois, à en tirer une conclusion assez, disons, inattendue. C'est bien la démonstration immédiate que si ce n'est pas lui, c'est le bordel. À la une de l'opinion, c'est un François Hollande défait que croque le dessinateur CAC, déjà sonné par le gant de boxe sorti du livre de son ex-compagne « Merci pour ce moment », mis à moitié KO par un autre livre « Un président ne devrait pas dire ça », et définitivement sonné en recevant un troisième ouvrage, celui titré par nos confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno « Nos très chers émirs ». Il braque un cruel projecteur sur les relations troubles entre une partie de la classe politique française dont un ministre est le Qatar. C'est la descente aux enfers, titre l'opinion, qui inverse la fameuse phrase de Jacques Chirac. Vous savez, les cons, c'est comme les emmerdes, ça vole en escadrille. Eh bien, pour le journal, c'est les emmerdes, c'est un petit peu comme les cons. Dans son éditorial, Nicolas Bétou dépeint une majorité en lambeaux. Et pour parfaire le tout, les résultats économiques et sociaux ne sont pas au rendez-vous. Bétou conclut avec beaucoup de fiel. Pas de doute possible, ça va mieux. Nos camarades de la presse régionale partagent à peu près le même regard. Dans la Voix du Nord, c'est une démocratie crépusculaire, qu'ausculte Mathieu Verrier en s'appuyant sur l'exemple des manifestations de policiers avec le phénomène du rejet des syndicats et des tentatives de récupération. Ce confrère augure qu'à défaut de réponse de la classe politique et des syndicats, eh bien, on risque fort de trouver de plus en plus de noctambules en colère sur les places de nos villes. Dans le Figaro magazine, Guillaume Roquette lui aussi participe à la curée en dénonçant un président tout à fait conscient des bombes potentielles qui s'accumulent dans le ciel de France, mais qui réserve ce diagnostic à quelques privilégiés au détour d'une conversation privée qui persiste au contraire en public, dans un optimisme assimilé par Roquette à un aveuglement incompatible avec la fonction. Un confrère qui rappelle tout de même que le discours lénifiant des dirigeants est quasiment une tradition française. Depuis Jacques Chirac, écrit l'éditorialiste du Figmag, nos présidents ont une fâcheuse tendance à confondre leur rôle avec celui d'un anesthésiant. Et si Hollande n'y allait pas? Question sous toutes les plumes, ou presque. Et si Royal y allait? Elle, au primaire, c'est un joli contre-pied que nous propose ce matin Didier Rose dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Il s'interroge sur la participation ou pas de l'ancienne compagne du président de la République 10 ans après son échec à la présidentielle. À cette hypothèse, elle sourit. On peut donc s'inquiéter, ironise Didier Rose, car elle envoie d'autres signes très sérieux de son grand retour dans ses luttes d'influence qui font ressembler les coulisses du Parti Socialiste à un Tchernobyl juste avant la fusion. Cauchemar ou espoir, l'éventualité d'un comeback de Ségolène révèle à quel niveau de sidération se situe le camp socialiste, selon l'éditorialiste du quotidien alsacien.
Le jeu de pouvoir, les enjeux de succession, ce que les anglo-saxons nomment « Games of Thrones », eh bien, c'est pas une exclusivité parisienne.
Mais non, la Provence se penche ce matin sur les scénarios possibles pour la succession de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille. Gaudin a-t-il un successeur ? Se demande la Provence. Le maire de la deuxième ville de France ne veut soutenir personne. Et pourtant, les héritiers putatifs sont nombreux. Nombreux mais discrets. Personne ne veut se prononcer ouvertement, de peur d'être dévoré avant l'heure par l'ogre Gaudin. L'un des possibles glisse d'ailleurs à un journaliste. Ici, vous savez, on est sous Ceausescu. Il y a des yeux et des oreilles partout. Le quotidien dépeint une ambiance de fin de règne, là encore, au palais de la mairie de Marseille, sous un très beau photomontage tiré de la série Games of Thrones, justement, où un Gaudin voûté, drapé dans un lourd manteau ourlé de peau de bête et appuyé sur son épée, surveille des courtisans tout sourire.
Il y a mille façons, Pascal, de parler du sport dans la presse. Le quotidien Le Monde nous en livre un excellent exemple.
Oui, de l'interview sans intérêt d'un footballeur après un match au grand débat de société, l'écart en effet est vaste et Le Monde s'arrête en cette fin de semaine sur la prochaine reprise du championnat américain de basket, mais pas du tout pour une analyse sportive. Clément Guillou nous explique comment les stars de la NBA s'engagent personnellement et collectivement contre les discriminations raciales et sexuelles aux États-Unis. C'est une implication qui a conduit cet été la direction de la NBA à une décision historique, priver une ville des États-Unis de l'un des plus grands spectacles sportifs de l'année, le All-Star Games. C'est le grand match de gala annuel de l'élite du basket américain. Il devait se jouer à Charlotte, en Caroline du Nord. Mais cet État vient d'adopter une loi très défavorable aux gays, aux lesbiennes et aux transgenres. Le basket américain n'a pas voulu associer son nom à cette initiative. Alors en accord avec les joueurs, la NBA a décidé de faire jouer le match ailleurs. C'est un bel exemple d'implication des sportifs dans de justes causes. Clément Guillou nous apprend d'ailleurs que cette décision n'est pas due au hasard. Depuis longtemps, les grands basketteurs, si j'ose dire, les grands basketteurs américains sont impliqués dans la lutte contre l'homophobie et contre toute forme de racisme en général.
Autre cas d'implication de sportifs dans l'action, celui que nous révèle La Croix ce matin.
Oui, Jean-François Fournel s'est rendu à Houlgate en Normandie et là le sport permet à des personnes sans domicile de se remettre en forme physiquement pendant des stages d'une semaine. Surtout de reprendre conscience de la nécessité de soigner le corps, ce qui n'a rien d'évident lorsqu'on passe ses journées et ses nuits dans la rue. Mais vous l'aurez deviné, l'intérêt de cette pratique sportive n'est pas que physique. Benoît Dano, le responsable de cette initiative, constate que le simple fait de se retrouver très tôt le matin sur un stade pour entreprendre un effort est vécu par les participants comme une fierté. Ces stages, on les doit à une association, elle s'appelle Un ballon pour l'insertion. Elle fait suite à une première Coupe du Monde de football, les sans-abri, organisée en 2011. Les bienfaits de son action, on peut les résumer dans les propos de l'un des stagiaires, Aziz. « Pas une fois je n'ai pensé à mon problème d'alcool », dit-il. « Je ne me croyais pas capable de faire ça, je suis fier de moi ».
Alors, nous n'avons pas Alexandra Akoun ce matin pour passer en vue l'actualité des médias. C'est dommage, parce qu'elle aurait sans doute beaucoup apprécié cette initiative de la rédaction du quotidien Le Monde.
Oui, comment informer en temps de terrorisme ? La question n'est pas banale, son intérêt ne se limite pas au petit cercle des journalistes. Chacun, chaque jour, en dépliant son journal, en allumant sa radio le matin ou son poste de télévision le soir, se la pose régulièrement. Eh bien, les chaînes d'information en continu, avec leur obligation de traiter le moment sans recul, sont pour nous, consommateurs d'information, une interpellation permanente. C'est pour cela que nos confrères du Monde ont réuni, à la fin du mois de septembre, un comité de rédaction pour y réfléchir. Et c'est le résultat de cette réflexion qu'il nous livre dans l'édition week-end du journal en inaugurant une nouvelle rubrique, ça s'appelle Making Of, une rubrique qui relève un difficile défi, mais un défi plus indispensable que jamais, en particulier quand on sait les ravages que font les complotistes dans les esprits les plus faibles. Quand le terrorisme prend en otage l'actualité, quelle visibilité donner aux auteurs d'actes terroristes, interroge mes confrères du Monde. Où mettre le curseur de ce que nous publions et de ce que nous refusons de publier. Je vous renvoie à la page 19 du journal pour lire les interrogations, les débats qui ont animé la rédaction du quotidien, débats que l'on peut peut-être résumer avec cette phrase de l'un de mes confrères. « J'ai à la fois l'impression que l'on en fait trop, et qu'on ne peut pas faire autrement.
C'était la revue de presse de Pascal Dervieux.